Oui, parce que bon, c'est difficile de parler de...
Bon, je vais dire deux mots d'introduction.
Oui.
Bon, je suis bien heureux d'avoir monsieur le professeur Philippe Arquas. C'est un mec que je connais depuis quelques années maintenant. C'est quelqu'un d'une générosité et il a cette passion pour le patrimoine qu'il essaie de partager. Il est ouvert et venu parler un sens d'humour remarquable pour un universitaire. Parfois un peu désabusé. Et activiste. S'il voit quelque chose qui va toucher au patrimoine, il y a quelques noms que vous risquez de voir associés à ces gens qui luttent pour préserver. Et on trouve souvent le nom de Philippe Arquas comme quelqu'un qui est là pour défendre notre patrimoine ici en Gironde. Je suis bien content de pouvoir recevoir le professeur Arquas parmi nous aujourd'hui et à vous.
Ben, je vous remercie, Hervé. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très, très gentil et je regrette d'autant plus de ne pas avoir amené le matériel parce qu'on aurait pu s'arranger ici. Mais bon, écoutez, on reverra ça. De toute manière, ce qu'Hervé m'avait demandé, c'était de préparer une petite... Ce que je peux vous demander, c'est de vous rapprocher dans un... sur ce coin de table,
ouais,
comme ça.
Ouais.
Et vous pourrez quand même voir quel... Bon, parce que c'est pas la peine, j'ai beaucoup trop d'images par rapport à ce que... Voilà. On va vous montrer. Sinon, au moins sur... comme... Donc j'avais pensé vous parler de la cathédrale de Bordeaux. Non, mais asseyez-vous là
ouais.
Voilà.
Oui,
voilà. Ah, c'est là plutôt. À côté de la porte, oui.
Ouais.
Et du coup, ça a coupé le...
Ça a coupé le fil.
Ah.
Non, pardon, c'est le...
No more power.
La batterie qui fait les tours. Donc,
oui, donc asseyez-vous. Donc j'avais préparé une présentation des nouveaux éclairages et nouvelles ce que l'on sait de neuf sur la cathédrale de Bordeaux depuis quelques années. Parce que, alors effectivement, Hervé vous a dit, je suis intéressé par le patrimoine, mais je suis historien surtout. Hein. J'ai été conservateur du patrimoine dans la première partie de ma carrière. J'étais conservateur dans un service qui s'appelait l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France. Et puis ensuite, je suis allé à l'université pour enseigner l'histoire de l'art et l'histoire. Mais disons, le dénominateur commun de toutes ces activités, c'est bien l'histoire. Et ce qui fait l'intérêt de l'histoire, bon, c'est que c'est une manière de voir le monde qui est extrêmement utile parce que ça donne, on a beaucoup de recul pour étudier les sociétés, pour étudier les phénomènes un peu complexes. Et je crois que ça donne un éclairage sur ce que l'on vit actuellement. Et puis, en même temps, c'est une évasion. Enfin, ça a beaucoup d'intérêt et beaucoup de points d'accroche. Mais ce qui est étonnant, c'est que sur des édifices ou des monuments ou des objets ou des faits aussi connus que peuvent être la cathédrale de Bordeaux ou la gare de Cent Ans, on continue à trouver des choses, on continue à apprendre et à découvrir des aspects de ces monuments. Voilà. Plus rien ne marche, ça devient absolument. Écran noir. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive.
Oui, c'est pas une prise comme on dit.
c'est ce que je veux
presque demander. Moi, je n'anticipe pas ça. Il n'y a pas une autre... On essaie une autre prise.
Ah. Il y en a une dernière avant. On peut peut-être approcher. Donc on continue toujours à découvrir des choses. Et alors sur cette cathédrale Saint-André de Bordeaux, je suppose que vous connaissez tous, hein, c'est l'un des grands monuments de la région. C'est un édifice que l'on connaît depuis très longtemps maintenant, qui a été étudié dès le début de... Non, je pense pas. Non, c'est le... Harvey, vous qui êtes un spécialiste, c'est pas normal que ça...
Oui.
Ou alors c'est les prises qui marchent pas, mais...
L'image, c'était un peu d'un seul coup, là, juste avant de...
Oui, mais ça peut arriver quand il n'y a plus du tout de batterie, parce qu'effectivement, je l'utilise souvent sans batterie, mais ce matin, il y en avait encore.
Peut-être un petit volant, pour que...
Non.
C'est un instantané, tu vois.
Non. Bon.
Vous continuez à parler...
Attendez, c'est pas difficile. Si ça termine par là...
Il y a moins, donc
il n'y a pas quelque chose qui était baissé au tableau.
Les différents boutons, là, il n'y a pas un qui commanderait les prises.
Celui-là.
Non.
Sur le transformateur, il y a un petit peu de volume.
Ou alors le relais
qui est
petit.
Non. Le relais, ça n'est toujours pas.
Non. C'est bien un pont, c'est là.
La chromoule.
Oui.
Ça ne pas, hein. Pas le pas.
Vous n'en avez pas un autre là parce que j'ai une clé.
Non.
Bon. Écoutez, donc on va.
On va parler un peu.
Donc effectivement, ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve toujours des nouveautés sur ces monuments. Et ça fait partie effectivement du charme de ce métier. Et ces nouveautés, on peut les trouver, c'est soit des trouvailles documentaires, ce qui s'est passé pour la cathédrale, mais enfin, maintenant c'est assez difficile parce que les archives ont été bien exploitées depuis longtemps, soit des fouilles archéologiques, et alors là, c'est là-dedans qu'il y a effectivement le plus de nouveautés, parce que maintenant, la loi sur l'archéologie impose avant tout travaux susceptibles d'altérer le sous-sol, donc des fouilles préventives, et toutes les villes, à Bordeaux en particulier, c'est en permanence qu'il y a des chantiers archéologiques en permanence qui sont alimentés par ces besoins inhérents à la loi sur l'archéologie actuellement. Par exemple, dans le quartier, l'îlot sud-ouest où il y avait les imprimeries du sud-ouest est en rénovation. Et il aurait dû y avoir des fouilles.
C'est l'ancien archevêché, Chevrus, non?
L'hôtel de Chevrus a été au 19e siècle l'archevêché, mais assez peu de temps. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est le cœur de la ville
Donc on s'attendait à avoir des découvertes extrêmement importantes. Puis les promoteurs, comme ça coûte très cher, c'est fou, ils ont trouvé une solution. Ils font des fondations sur micropieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de creuser. Et de ce fait, on n'a pas besoin de faire des... Mais bon, en revanche, ce qui s'est passé autour de la cathédrale, c'est qu'il y a eu, effectivement, à l'occasion de la mise en place du tramway et de réaménagement de la place, là, il y a eu des fouilles très importantes, des sondages très importants qui ont été opérés il y a maintenant une dizaine d'années et qui ont fait apparaître des choses extrêmement, extrêmement intéressantes. Donc, je vais revenir un peu là-dessus. Et enfin, il y a une troisième manière de renouveler l'histoire, c'est les questionnements que l'on a sur l'histoire, les regards ne sont pas les mêmes, et donc nourris par des expériences étrangères aux monuments que l'on étudie, on voit, on aperçoit des nouvelles concordances, et on interprète différemment aussi ce que l'on savait. Donc tout ça fait que sur cette cathédrale Saint-André, qui est donc un édifice plus que millénaire, qui a bientôt 2000 ans, oui, bientôt 2000 ans, on a, et que l'on étudie depuis, depuis le XVIe siècle, on a commencé à s'intéresser un peu à l'archéologie, à l'histoire, à rédiger des... c'est surtout au XVIIe, mais dès le XVIe on commence, on a des éclairages sur l'histoire de cette cathédrale. Alors cette cathédrale, dans l'histoire de Bordeaux, elle occupe une place très 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 importante parce que donc, c'est le siège de l'évêché, puis d'un archevêché extrêmement puissant, les archevêques sont des personnages de grande importance. Et puis, comme dans toutes les cathédrales, il y a des chanoines autour. Une cathédrale est donc davantage même la propriété des chanoines que de l'archevêque. L'archevêque passe, enfin je veux dire, il est nommé bien souvent d'ailleurs, tandis que les chanoines sont bien implantés dans la ville. C'est le chapitre qui est riche, c'est le chapitre qui finance les travaux de la cathédrale, c'est le chapitre qui gère donc le patrimoine foncier de la cathédrale, en grande partie l'archevêque, mais plus ou moins riche suivant les périodes. Mais... Donc ce chapitre Saint-André, il est extrêmement, extrêmement important et puissant depuis au moins le début du deuxième millénaire. Donc on a là, avec ces institutions, donc surtout le chapitre, on a quelques sources. Hein. Il y a des registres capitulaires, donc il y a des documents qui nous permettent de suivre un petit peu les travaux qui ont été opérés sur cet édifice et de comprendre donc comment il a évolué. Mais la question qui se pose dès le départ pour cette cathédrale, c'est de savoir si... effectivement, c'est la première église de Bordeaux. Et là, à Bordeaux, il y a eu quand même un gros... De tout temps, il y a eu une opposition entre deux églises, qui étaient Saint-Seurin et la cathédrale. Parce que les chanoines de Saint-Seurin, qui sont encore plus riches et puissants que les chanoines de la cathédrale de Bordeaux, les chanoines de Saint-Seurin, ils ont un patrimoine foncier considérable, surtout le Médoc, les Graves, etc., et donc ils sont très très riches, très fiers de détenir les reliques des premiers évêques de Bordeaux, Saint-Amand et donc Saint-Seurin. Et ils revendiquent donc d'avoir été la première église de Bordeaux et même d'avoir été la première cathédrale de Bordeaux. Ça, tout au long de leur histoire, ils ont revendiqué ceci. Ils l'ont mis en œuvre d'ailleurs dès très tôt. Donc dès l'époque mérovingienne, on a construit une petite église autour des tombes de Saint-Seurin et Saint-Amand. Et puis au XIe siècle, on a aménagé la crypte de Saint-Seurin, qu'il faut absolument que vous visitiez si vous ne l'avez pas visitée.
pour en faire une espèce de manifestation de l'antiquité de l'Église, parce qu'elle est complètement aménagée avec des colonnes, des chapiteaux qui sont des chapiteaux antiques en rempois, et donc qui témoignent de cette très très grande ancienneté de l'Église, et en quelque sorte ils font la nique à la cathédrale, puisque la cathédrale, elle, n'a rien à se mettre à proposer pour témoigner de son ancienneté. Elle est même obligée d'aller en quelque sorte acheter, au moins se procurer des reliques, les reliques de Saint Macaire qu'on va amener à la cathédrale, parce qu'il n'y avait pas de reliques dans la cathédrale à l'origine, puisque justement les reliques des saints avaient pour les corps des saints ou des évangélisateurs avaient été inhumés donc au début du christianisme dans les nécropoles qui étaient dans le monde romain à l'extérieur des villes. Le rapprochement des morts et des vivants, c'est proprement chrétien. Dans toutes les autres civilisations, on rejette les morts à l'extérieur des villes. Donc ce saint Serein et ce saint Amand, quand ils ont été, après avoir exercé leur épiscopat, ils ont été inhumés dans un cimetière qui se trouvait sur le mont Judaïque, donc où se trouve actuellement la cathédrale Saint-Serein. Et les premiers chrétiens sont réunis autour d'eux, comme ils avaient une réputation de sainteté, on a voulu se faire enterrer autour d'eux, donc c'est devenu effectivement très tôt le premier sanctuaire important de Bordeaux. Et de ce fait, les chanoines de Saint-Serein prétendaient qu'ils étaient la première église, donc la première cathédrale de Bordeaux, puisque l'évêque était là, donc. Mais les chanoines de la cathédrale, depuis le IXe siècle, prétendaient être, avaient cet édifice qui était l'édifice de l'évêque. Donc, de fait, à partir du moment où on a le document historique, le premier document historique qui évoque la cathédrale en tant que siège épiscopal, c'est bien de Saint-André qu'il s'agit. Et alors, ce débat a duré pendant toute la période historique. Les chanoines de Saint-Serein, après avoir construit cette espèce de mausolée, vraiment c'est assez incroyable, parce qu'ils étaient très riches et très puissants, ils auraient pu avoir de se payer des chapiteaux neufs ou des colonnes neuves, non, que des remplois un peu tordus pour bien montrer que c'est ancien. Même dans le porche de Saint-Serein, il y a toute une série de très beaux chapiteaux romans, puis il y en a un qui est un vieux chapiteau antique en marbre, pour montrer que bon, c'était vraiment quelque chose de très ancien, comme dans les maisons de l'aristocratie. Ici, on met en avant les meubles des commodes 18e, etc., pour se rattacher à un passé un peu prestigieux. Et puis, et ça a duré durant tout. Ils imposaient, par exemple, à l'évêque de Bordeaux de venir passer la première nuit à Saint-Serein, dans cœur de Saint-Serein, vous avez une chaire en pierre sculptée, magnifique, avec une mitre qui est suspendue, et l'évêque, avant même d'aller à la cathédrale, devait passer, était intronisé à Saint-Serein. J'ai essayé de faire un peu la même chose pour les ducs d'Aquitaine, bon, ça a moins bien marché, mais bon, ils étaient extrêmement arrogants, et tout au long de l'histoire, jusqu'au XIXe siècle, le dernier chanoine historien de Saint-Serein, celui qui a écrit la grande histoire de Saint-Serein, qui s'appelle Cyrot de la Ville, donc avait continué à proclamer haut et fort donc cette ancienneté et la primatie de Saint-Serein sur la ville de Bordeaux. Et puis au XXe siècle, encore dans les années immédiates après-guerre, la marquise de Maillet, qui était une grande historienne, qui a fait travailler sur les origines chrétiennes de Bordeaux, était de cet avis, en disant que Saint-Serein avait sans doute été la première cathédrale, il y avait sans doute le premier baptistère qui se trouvait à côté de l'église, et voilà. Donc on en est resté là, parce que donc ces églises au début de l'époque chrétienne, une église n'est pas isolée, il y a toujours un groupe épiscopal ou un groupe ecclésial, il y a l'église, le baptistère, etc. Donc on en restait là, mais bon, il y avait les deux parties, disons. Et puis, ce qui s'est passé, donc, lorsqu'on a fait les travaux autour de la cathédrale, on a creusé assez peu profondément, pour remettre le dallage et les rails du tramway, et à l'endroit où le tram tourne pour aller emprunter la rue Vitalcar. Là, on a trouvé les murs et l'abside d'une grande basilique. Alors une basilique, ça peut être une basilique romaine, civile, mais bon, à cet endroit-là, une immense basilique, très très grande, avec décorée, avec des plaquages de marbre, des mosaïques, enfin il reste presque rien. En plus, ça a été fouillé de manière très très rapide, l'archéologue a eu une quinzaine de jours pour fouiller, il était tout seul, tout le monde était sur les quais, il y avait des dizaines d'archéologues qui essayaient de trouver le port de Bordeaux, on a trouvé trois bouts de bois pourris, et à la cathédrale, il était tout seul, il s'appelait Vandel Mijon, c'est un très très bon archéologue qui a fouillé et qui a réussi donc à lever le plan, à faire quelques prélèvements de cet édifice avant qu'il ne soit à nouveau... il n'est pas détruit, bien sûr, on ne détruit pas, mais on a coulé une dalle de béton dessus, c'est-à-dire qu'il faudra attendre qu'on n'ait plus besoin du tramway pour fouiller à nouveau. Bon. Peu importe. De toute manière, c'est un peu regrettable que ça ait été fait si rapidement, mais on ne pouvait pas le garder, on ne peut pas tout garder. On aurait pu peut-être imaginer un autre tracé pour le tram, mais bon, peu importe. Là aussi, c'est nos associations, tout ça, on a toujours notre mot à dire là-dessus. Si on avait été averti à cette époque-là, on aurait sans doute essayé de... Quand je dis « on », je suis à la Société archéologique, je suis président de la Société archéologique, pour quelques jours encore, si je vais céder la place. Mais donc on aurait sans doute essayé de faire pression pour soit détourner le tram, mais en général ça ne sert pas à grand-chose, mais ça retarde un peu. Enfin, donc on a mis en évidence cette cathédrale, hein, cette première cathédrale de Bordeaux. Alors évidemment, on n'a pas trouvé l'hôtel, on n'a pas eu le temps de fouiller assez précisément, et je ne sais pas si on l'aurait forcément trouvé, mais bon, il y a pratiquement, tout le monde s'accorde à penser que c'était le siège de la première cathédrale, parce que après, bon, elle s'est un petit peu déplacée, donc la cathédrale actuelle est un peu déplacée, mais comme il y avait plusieurs églises, le groupe épiscopal à l'époque carolingienne, il y a l'église Saint-André, mais il y a l'église Notre-Dame de la Place, qui existe toujours, d'ailleurs, on en voit une petite abside dans un bâtiment qui est à l'est de la cathédrale. Il y avait l'église Saint-Sauveur aussi à l'angle de la rue du Loup. Donc il y avait plusieurs églises qui formaient le groupe épiscopal, dont sans doute cette grande église basilique. Alors ça, c'est vraiment, bon, tout à l'heure au restaurant, on trouvera une prise qui marche, et puis j'espère que je pourrai vous montrer quelques images. Parce que alors, comme image pour cela, on ne voit pas grand-chose, puisque on a juste, si vous voulez, fouillé sur l'emprise du tram. C'est-à-dire que toute la partie de la cathédrale qui filait sous le Café Français, par là, tout ça, c'est, évidemment, ce ne sera pas fouillé. Il faudrait démolir le Café Français, enfin, ce ne sera pas fouillé. Mais tout est là-dessus. Tout est dessus. Alors ça a été quand même une première trouvaille et un changement radical dans l'histoire. Parce que jusque maintenant, on peut vraiment affirmer que Saint-André est la première cathédrale de Bordeaux. C'est-à-dire que on se trouve là dans un cas de figure qui est extrêmement étendu. Au début du christianisme, il y a toujours cette dualité, quand je dis toujours, presque toujours, mais enfin, il y a toujours deux églises qui sont comme ça, qui partagent un peu le pouvoir spirituel et le pouvoir politique sur les villes. C'est la cathédrale et puis une grande église martyriale. Si vous connaissez Limoges, par exemple, à Limoges, il y avait la cathédrale, il y avait Saint-Martial. À Tours, il y avait la cathédrale, il y avait Saint-Martin. À Toulouse, il y a la cathédrale, il y a Saint-Sernin. Partout, en Espagne, c'est pareil. À Tarragone, il y a la cathédrale, et puis il y a les grandes églises martyriales qui sont sur les nécropoles. Et même à Périgueux, il y a la cathédrale et il y a Saint-Front. Enfin, c'est
quasiment systématique. Hein. C'est un schéma qui se... Et d'ailleurs, qui va complètement amener à reconfigurer les villes médiévales. Hein. Cette double polarité, c'est là-dessus que va se restructurer la ville. À Bordeaux, c'est pas très très net, parce que les chanoines de Saint-Seurin, qui sont extrêmement puissants, ont vraiment leur propriété, tout ça. Ça fait que la ville, le bourg Saint-Seurin, sera toujours un bourg très aristocratique et jamais très populaire. Mais à Toulouse, par exemple, Saint-Sernin devient vraiment le cœur de la ville. À Saint-Martial, ou Saint-Martin, Saint-Martial à Limoges, Saint-Martin à Tours, ça devient vraiment des villes extrêmement, extrêmement importantes. Et donc, on a à la fois la dévotion populaire qui va vers le culte des saints, bon, parce que ça aussi c'est quelque chose qui s'est rajouté au christianisme primitif, qui est au début du christianisme, les chrétiens, c'est l'Eucharistie, c'est la réunion des fidèles, mais bon, c'est pas le culte des saints. Le culte des saints se greffe progressivement là-dessus, à partir, assez tôt, mais... la population, hein, du point de vue anthropologique, c'est... Le côté très intellectuel de la religion chrétienne avec un Dieu en trois personnes, Christ incarné, tout ça absolument difficile à comprendre. Et puis, il y a quelque chose qui ramène à des pratiques beaucoup plus anciennes, la dévotion, un corps saint, miraculeux, tout ça. Donc, ces églises martyriales, ou ces églises qui sont des saints fondateurs des communautés chrétiennes, sont beaucoup plus appréciées par les fidèles. Elles ont, alors que, mais en revanche, les évêques vont s'installer dans généralement au cœur de la ville. Alors, quelquefois sur la cathédrale ou le forum, sur le forum ou sur le temple impérial, c'est le cas de Tarragone par exemple, que je connais bien, mais c'est assez rare quand même. À Bordeaux ou à Toulouse, ça s'installe au cœur de la ville, mais pas forcément sur l'ancien forum. Hein. Parce qu'au moment où la cathédrale s'installe, où la communauté se structure, les évêques ne sont pas encore très très puissants, et donc ils s'installent plutôt dans des zones artisanales, peut-être où la pression foncière est moins importante, ou voilà, où ils convivent au début avec les autres religions. Donc, s'ils s'implantent très tôt, les chrétiens, les cathédrales vont pas être occupées d'anciens temples. Vous voyez, ils vont aller s'installer, comme c'est le cas à Bordeaux, dans un angle du castrum, dans une zone qui est une zone artisanale, commerciale. C'est le cas à Toulouse, c'est le cas à Barcelone. Barcelone et Bordeaux, c'est très très proche pour ça. Et donc, ils tirent leur pouvoir, en fait, les évêques, du fait qu'ils prennent le relais de l'administration romaine qui est en pleine déliquescence, et ils vont construire une nouvelle société. Hein, mais en bipolarité avec ces autres chapitres et ces autres sanctuaires. Donc ça, c'est le cas bordelais, mais c'est un cas de figure très 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 répandu. Donc on est assuré maintenant que c'est la cathédrale du 4e siècle, parce que l'église est du 4e siècle, au 5e siècle, hein, l'église, donc c'est très très tôt, hein, très tôt. Et on a sans doute une implantation des premiers temps du christianisme qui est sans doute contemporaine de celle de Saint-Seurin, enfin, une ou deux générations près, quoi. Mais l'évêque s'installe dès le départ, là, sans doute. Hein. Dès le départ, c'est normal, au cœur de la ville, parce que comme le pouvoir de l'évêque, c'est un pouvoir quand même politique. Et il s'installe dans un endroit protégé, dans un endroit qui est un endroit central.
Vous venez de dire que Saint-Seurin n'était jamais cathédrale ?
Non, jamais. Non. Saint-Seurin n'a jamais été... Enfin, maintenant, depuis qu'on a trouvé cette... qu'on a découvert ces vestiges, la basilique, eh bien, on est...
Je sais,
voilà, on en est quasiment certain. Ah, ça, ça a été la première trouvaille.
Oui, madame, je vous en prie.
Je suis désolé d'être
arrivé. C'est moi qui vais
dans le train. J'étais allé à Saint-Médard-des-Rangs. D'ailleurs, j'ai tout vous dire, j'ai commencé par aller à l'île Saint-Georges. Je crois que c'était à l'île Saint-Georges. Après, je suis revenu ici. Mais bon, j'étais quand même dans les temps. Puis là, j'arrive à la salle des fêtes, je fais le tour. Ah, tiens, c'est bizarre, tout était fermé. Je suis peut-être encore arrivé. Bon, je continue mon histoire. Donc, la deuxième trouvaille, ça a été aussi extrêmement spectaculaire. C'était au mois d'août. Et je vous en prie, madame. Et donc, il n'y avait personne à Bordeaux. Il y avait le conservateur d'archéologie, Danny Barraud, moi, enfin, et l'archéologue, Vandel Mijon, en fouillant sur le parvis de la cathédrale, juste devant la grande la porte des flèches, là, est tombé sur des blocs de maçonnerie et il nous a tout de suite alertés. Et donc on a trouvé là un autre élément qui était absolument inconnu, ça se paraît étonnant, c'est un énorme clocher-porche, les bases d'un énorme clocher-porche, mais conservé sur plus de 2 mètres de hauteur. Alors on a commencé à trouver des blocs de maçonnerie, puis on est descendu. Et c'est le signe qu'il y a eu ici, à l'ouest de la cathédrale, une très très belle tour, qui a été érigée au milieu du XIIe siècle, d'après le style en date du milieu du XIIe siècle, qui était l'entrée principale de la cathédrale. Parce que la cathédrale, vous avez vu, le mur ouest de la cathédrale, il est aveugle presque, et il n'a pas
architecturé. Il y avait le rempart.
Voilà, parce qu'il y avait le rempart un peu à quelques dizaines de mètres, et puis entre les deux, il y avait le palais épiscopal, donc il n'y avait pas d'espace pour faire une façade, une entrée monumentale. Donc l'entrée a toujours été au nord. Au sud, c'est pareil, le rempart passait très près. Alors là, il y avait le cloître des chanoines, il y avait les maisons des chanoines. En général, côté cloître, c'est toujours tous les bâtiments canoniaux. Donc, le côté nord, c'est plutôt le côté de l'évêque. Il y avait le palais épiscopal, donc il y avait un peu de place. C'était l'entrée principale. Et donc, pour marquer cette entrée principale, et sans doute pour rivaliser avec Saint-Seurin, qui venait de construire son clocher, Saint-Seurin venait de construire son clocher. Les chanoines de la cathédrale ont voulu avoir leur clocher. Ils ont construit un clocher plus gros que celui de Saint-Seurin, plus important, magnifique, comme on a vu quand il a été dégagé. La taille de pierre, très très belle, avec toute la mouluration. Ça ressemble beaucoup au porche, ou à la tour de Sainte-Croix, ou surtout à la Sauve-Majeure. C'est à peu près dans ces années-là. Et on a commencé à construire ce clocher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. En tout cas, à mesure que l'on fouillait, une fois que ça a été dégagé, on voyait que les assises, au lieu d'être horizontales, penchaient comme ça vers le nord-est. Et cette tour a basculé. Alors, est-ce qu'elle a basculé en cours de construction? Est-ce qu'elle a été un jour terminée? On pense, parce qu'il y a un texte des années 1180 qui dit... qu'un accord est passé sous le clocher neuf. Donc, il semble qu'il ait été construit. En tout cas, s'il a été construit, il a très vite basculé et on a été obligé de l'arraser. Hein. D'abord, on a comblé, il était ouvert par trois grandes baies sur trois côtés, l'autre ouvrant sur la cathédrale. Et il était collé à la cathédrale, il était peut-être pas... est très étroitement lié à la cathédrale, mais adossé à la cathédrale. Donc, on a fermé ces grandes baies pour donner un peu plus d'aspect. On l'a sans doute arasé. On a transformé ça en crypte. On a installé des tombes dedans. Et puis, on a percé un portail un peu plus loin à l'ouest, ce qui est le portail royal maintenant, qui a été aménagé, sculpté un petit peu plus tard. Donc voilà cette nouvelle trouvaille, et là c'est quelque chose qu'on ignorait totalement. Et alors c'est intéressant parce que c'est à peu près de l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, c'est à peu près à ce moment-là qu'Aliénor s'est marié à la cathédrale de Bordeaux avec Louis VII, le roi de France. Et donc pour essayer de sauver un petit peu l'affaire, parce que évidemment on voulait tout de suite reboucher. Il fallait reboucher, et donc alors on a fait une conférence de presse, et à ce moment-là, j'avais... il y avait, au
mois d'août, en France, il n'y a personne nulle part. Même les journaux, Le Monde a envoyé quelqu'un qui était un jeune pigiste qui ne connaissait rien à rien. Alors, essayez de lui expliquer, il ne comprenait rien. Je lui dis, écoutez, c'est très important. C'est par là, sans doute, que Caliénor d'Aquitaine est passé pour son mariage. C'était l'entrée de la cathédrale. Et je lui dis, et même, peut-être même, ça devait être en travaux à cette époque-là, parce que si ça se trouve, elle est passée sur les planches. C'est ce qu'il a écrit. Bon, j'avais été considéré comme un historien très très sérieux, mais ça a achevé ma réputation. Alors depuis, je l'appelle la tour d'Aliénor. On ne sait pas exactement si elle était en construction. Elle a peut-être été construite un petit peu après. Elle a marié en 1137, la tour, elle date entre 1130 et 1150. Voilà, on ne peut pas être tellement plus précis. En tout cas, elle était bien avancée à 1380. Et puis, d'après les études qu'on a faites, elle a été sans doute réalisée sous l'épiscopat d'un évêque qui s'appelle Geoffroy de Louroux, qui a construit toute une série de bâtiments, l'abbaye de Lille en Médoc. Donc il a des abbayes et des collégiales en Vendée, Plaine-Selle aussi, ici, dans le Nord Gironde, enfin. Et tous ces édifices présentent des traits communs. Ça, c'était l'objet d'une nouvelle thèse. C'est une autre manière de renouveler l'histoire, donc une thèse qui a été soutenue là, en juin dernier. Une jeune femme qui a étudié toutes ces constructions de Geoffroy de Louroux, et elle a montré comment ce clocher, par le système de proportion, le système de dessin, se calait parfaitement dans ces constructions de Geoffroy de Louroux, qui sont très homogènes, qui sont très très homogènes. Donc, sur ce monument dont on ignorait jusqu'à l'existence en 2005, on sait maintenant que c'était une grande tour, sans doute la plus belle de Bordeaux, de très loin, parce qu'elle est très grande. D'après, là je vous montre aussi, on a fait des reconstitutions 3D, d'après la base, la dimension à la base, et puis le système de proportion habituel de ces tours, qui est toujours à peu près le même, on peut avoir une idée de son élévation. Donc c'était quelque chose un peu comme la grande tour sud de Sainte-Croix, par exemple, de ses dimensions quand même, peut-être un peu plus haute, parce que ce n'était pas une tour de façade, c'était une tour de clocher. Et c'est pour ça qu'elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée parce que le sous-sol de cette cathédrale est... Et alors, en conséquence, si vous voulez, ça amène à conforter d'autres opinions. Par exemple, moi j'avais la pensée que la tour Péberlan isolée de la cathédrale, c'est pour cette raison qu'elle est isolée de la cathédrale. Parce que on ne peut pas construire une énorme tour comme ça. On sait qu'elle va se tasser beaucoup, qu'elle risque de basculer. Donc, on prend des précautions. Et vraisemblablement, les chanoines avaient à la mémoire cette histoire de la tour qui allait basculer lorsqu'au XVe siècle, on construit la tour Péberlan. Et la tour Saint-Michel, pareil, que l'on ne voit pas jouxter à la cathédrale. Et au XIXe siècle, quand Abadie construit Sainte-Marie de la Bastide, il le sait, ça. Et le clocher de Sainte-Marie de la Bastide, il n'est pas lié à l'église. Il glisse dessus comme ça, il n'est pas attaché. Donc ça, ce sont des nouvelles interprétations, des interprétations que l'on peut confirmer, et des nouveaux éléments que l'on a en main. Donc alors, l'histoire de cette tour, elle va amener aussi à comprendre l'importance du portail royal. Parce que ce portail royal, qui n'était qu'une porte percée, le portail royal, c'est le portail qui est sur la deuxième travée de nef, donc, qui est actuellement en cours de restauration, et qui s'ouvre sur ce jardinet, qui est une porte placée bizarrement pour être le portail principal de la cathédrale. Mais c'était une porte qui donnait accès directement à la cour du palais épiscopal. Hein. Donc c'était une petite porte de peu d'importance. Mais du fait qu'il y avait ce clocher, ce porche, transformé en crypte qu'on a gardé pendant une centaine d'années devant le transept nord, on ne pouvait plus rentrer par là. Donc on a décidé, au milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire que lorsqu'on a construit le portail royal, on peut le dater de 1250 environ, on sait que la tour était déjà basculée, était déjà condamnée. Ce que a confirmé la fouille un petit peu de cet espace. D'ailleurs, cet espace était complètement rempli d'ossements. Elle a été transformée en eau de suaire à une époque indéterminée. Peut-être au moment où on a construit les contreforts, ou non, parce qu'à ce moment-là, il était déjà bouché. En tout cas, peut-être au moment où on a construit le portail royal, justement, qu'on a dû aménager, on a dû entasser des ossements dans cet espace. Enfin, là, on ne sait pas trop, parce que comme la fouille a été menée très très rapidement, on n'a pas pu étudier ces mètres cubes d'ossements qu'il y avait. C'était très bien rangé, tous les tibias alignés, les têtes, comme ça, c'était très impressionnant. Et voilà, ça c'est la deuxième nouveauté de ces dernières années, donc ça date de 2006. Et alors depuis, ce clocher a fait couler beaucoup d'encre, il a été étudié, on a fait des restitutions 3D, donc il a été inclus dans la thèse sur l'architecture de Geoffroy de Leroux, et il nous a amené à reposer la question de la cathédrale du XIIe siècle, puisque tout le chœur a été reconstruit plus tard, à la fin du XIIIe siècle. On ne sait pas comment était cette cathédrale. Et alors, on a intégré à cette réflexion une très belle collection de chapiteaux qui sont au musée d'Aquitaine. Au musée d'Aquitaine, on a une grande collection de chapiteaux qui sont des chapiteaux sculptés, de romans, très très beaux, très, très, très décorés, très riches, qui s'opposent en tout aux chapiteaux de la nef. Alors, les chapiteaux de la nef, ils sont très austères, on dirait chapiteaux cisterciens un peu, avec des feuilles lisses, des choses très peu fouillées, très, très austères. La nef était complètement peinte en faux appareil blanc avec des lignes rouges, et puis il y avait ces chapiteaux très austères. Et ça, c'est le style Geoffroy de Leroux. Geoffroy de Leroux, c'était un prélat réformateur, qui est assez proche des ordres comme les cisterciens, ils ne veulent pas trop de décors, etc. Donc, on a une partie de la cathédrale qui est comme ça, et puis on a ces chapiteaux. Et ces chapiteaux, ils sont visiblement pas du même esprit. Ils doivent être un petit peu antérieurs, c'est-à-dire que moi, je pense que ces chapiteaux devaient appartenir au chœur roman. Et ce chœur roman, il avait dû être construit dans les années un petit peu avant la tour, dans le deuxième tiers du XIIe siècle, dans les années 1100 ou deuxième quart, 1125, 1150, quelque chose comme ça. Et il devait décorer sans doute une arcature basse dans le chœur, un peu comme on a à Sainte-Croix. Mais à Sainte-Croix, ça a été très restauré. Au fond du chœur, on a des arcatures, et ces chapiteaux, ils correspondent très bien. Ils sont en très bon état, ils ne sont pas abîmés. C'était des chapiteaux d'une colonnade.
Où ont-ils été trouvés ?
Alors, ils ont été trouvés dans la cathédrale Saint-André, on ne sait pas où exactement, sans doute du côté sud, au moment où on a démoli le cloître, comme ça. Mais on ne sait pas exactement où ils ont été trouvés, c'est au XIXe siècle. En tout cas, ils avaient été très protégés. Ils avaient été très protégés. Alors c'est fréquent hein, quand on démolit des lieux sacrés, on peut utiliser ça comme moellon. Mais quand c'est des pierres sculptées, on les réserve, alors on fait des espèces de caveaux, on les stocke, pas pour les réutiliser, mais simplement pour par respect pour ce travail. Donc. Mais on n'a pas de grande précision sur un lieu de travail. On sait qu'ils viennent de la cathédrale, c'est sûr qu'ils viennent de la cathédrale, mais on ne sait pas de quelle partie. Alors l'hypothèse, moi j'avais pensé au départ que ça pouvait être des chapiteaux de cette tour. C'est possible, hein, des chapiteaux, parce que ça correspond un peu au module des colonnes et tout ça. Ils sont très très bien conservés. C'est plutôt des chapiteaux intérieurs. Voilà. Alors, tout ça, ça a été publié dans la Société archéologique de Bordeaux. Et donc on a cette belle collection, et donc on peut avoir un peu une idée de ce qu'était cette église romane, où il devait y avoir deux ensembles, un qui correspond au roman très décoré, très riche, un peu celui de la Sauve Majeure ou des grandes églises de Saint-Onge, et puis un autre beaucoup plus austère, qui est la roman des années du milieu du XIIe siècle, donc marqué par les ordres réformateurs, voilà. Ça, c'est la trouvaille numéro 2, donc. Et puis, bon, pour la suite de l'histoire de la cathédrale, donc, on sait que cette... ah oui, alors, aussi, on a, à partir de là, on a réfléchi sur la nef romane. Bon, on n'a pas vraiment de nouveautés, parce que déjà, Brutail, ce que vous avez ici, hein, avait proposé pour Saint-André, il avait bien vu que la nef, il avait bien vu que la nef romane avait à l'origine trois travées. Je vais trouver ça. Avait trois travées de plan carré. Maintenant, quand vous êtes dans la nef, vous avez des voûtes gothiques allongées, comme ça, on appelle ça barre longue, des rectangulaires. Mais à l'origine, il y avait trois grosses travées, c'est comme trois gros cubes, avec un carré à la base, pratiquement une élévation de la largeur de la nef. Et sur le couvrement, on ne sait pas ce qu'il y avait. Ça ressemble beaucoup à des églises à fil de coupole. Ça ressemble beaucoup à la cathédrale d'Angoulême, comme effectivement on est très proche d'Angoulême. L'évêque qui avait précédé Geoffroy de Leroux avait été évêque d'Angoulême. Donc ça ressemble beaucoup à Fontevraud, à tout ça. Donc il pouvait y avoir des voûtes. Ou alors il aurait pu aussi y avoir des premières croisées d'ogives, un peu comme la cathédrale d'Angers. Donc on a quand même un édifice de l'ouest, et donc on a des nouveautés, c'est que maintenant on peut, à partir des images 3D, donc faire des propositions. Alors là j'avais fait des propositions, d'ailleurs vous pourrez les trouver, ça, vous avez deux sites sur internet qui sont très intéressants. Il y a le site de l'inventaire général des monuments et richesses artistiques, donc c'est inventaire général je pense, sur lequel vous avez une visite virtuelle de la cathédrale avec des reconstitutions 3D, en particulier du cloître, si je vais y revenir. Et donc, moi j'avais fait pour un autre site qui s'appelle aliénor-aquitaine.org. Là-dedans, il y a en architecture, les lieux d'Aliénor, il y a la cathédrale de Bordeaux, et j'ai fait deux petites restitutions 3D de la nef du XIIe siècle et de la tour. Et donc, on a une vision de ce qu'était cette église. Et là aussi, une autre manière de renouveler l'histoire, justement, c'est l'utilisation de ces outils qui ne sont pas que des gadgets, vous voyez. Et là, ça a été utilisé pour une autre partie de la cathédrale qui est assez ignorée, c'est le cloître. Au sud de la cathédrale, du côté de la rue du Commandant Arnoul, il y avait un grand cloître qui a été arasé dans les années 1860 pour faire une grande percée. Donc à ce moment-là, il y a eu un grand débat avec la société archéologique qui s'est opposée à ça. Enfin, ça ne sert à rien comme toujours, mais bon, on continue à essayer de sauver les meubles, si j'ose dire. Et ce cloître a été rasé. On en a beaucoup de dessins, de Léo Drouin en particulier, qui nous permettaient de comprendre comment il était réalisé. Et puis, à l'occasion de ce travail qui a été fait par l'inventaire général, qui a voulu faire une démonstration d'un dossier numérique accessible sur Internet, avec toute l'histoire de la cathédrale, son mobilier, etc. Donc, ils ont décidé de faire une reconstitution 3D du cloître. Et les travaux, l'étude pour faire cette image 3D, a amené à retrouver les arcatures du cloître qui avaient été démontées, qui étaient déposées sur un parking, je ne sais pas où. Donc à partir des quelques éléments qu'il y avait au musée d'Aquitaine, d'autres éléments qu'on a retrouvés, on a pu reconstituer ce cloître en 3D dans son état 19e en tout cas. Et bon, on a un très beau cloître, donc du 14e siècle, très austère, donc qui est assez, qui doit être à peu près contemporain de la réfection du chœur, vous voyez, de la cathédrale. Alors ça, c'est un autre élément nouveau qu'il n'y a pas, ni évidemment dans Brutais, ni dans ces ouvrages relativement récents que vous avez. On n'avait pas d'image du cloître, on avait les dessins de Léo Drouin, Mais là, on le connaît un peu mieux, puis ben, assez précisément, et ça le rattache à des éléments qui sont au musée d'Aquitaine. Ça, c'est encore une autre nouveauté. Donc, c'était cette église du XIIe siècle. Et puis, l'histoire du porche qui explique la construction du portail royal. Sur ce portail royal, on n'a pas trop de nouveautés. Mais les restaurations qui sont en cours permettent quand même d'avoir de nouveau un peu plus de précision. On arrive à comprendre comment il a été construit. Il y a plusieurs campagnes, il y avait un premier projet qui a été modifié pour mettre les grandes statues d'ébrasement. Et puis on a retrouvé des traces de polychromie, alors très très peu, mais on a vu sur le fond du tympan, hein, on a du bleu avec des étoiles d'or. Et puis on a un petit peu de rouge sur le manteau du Christ, je crois, très très peu de choses. Mais là, il faut attendre la fin des travaux pour avoir une analyse nouvelle de ce portail. Je ne pense pas que ça révolutionne beaucoup les choses. On sait qu'il est daté des années 1250 à peu près. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup au-delà de ce qu'avait écrit le professeur Gardel dans les années 60 quand il a étudié le portail. Non, ça c'est un. On est dans l'attente là de ces nouveautés. Alors il y a des études ouvertes aussi qui ont été. Alors après la construction de ce portail dans les années 1250, ce qui va de pair avec la subdivision de la nef, à ce moment-là, on divise la nef, ces grandes travées carrées sont coupées en deux pour mettre des travées gothiques avec des voûtes barlons. Moi je pense que c'est parce qu'on n'arrivait pas à voûter. Je pense que l'église est trop large, qu'on avait été traumatisé par cette histoire du clocher, et que dresser des énormes coupoles comme ça sur ces murs qui basculent pour un oui, pour un non, qui sont, je ne suis pas sûr qu'on ait. On se demande si elle a été couverte de coupoles ou de voûtes d'ogive, et moi je pense qu'il n'y a jamais eu ni coupole ni voûte d'ogive, qu'on n'a pas réussi à voûter, ou qu'on a voûté que ça s'est effondré, ou que c'était trop risqué, et donc on a subdivisé. On a fait ces voûtes qui sont beaucoup plus légères. Évidemment, c'est beaucoup plus léger d'avoir des petites voûtes d'ogive que ces énormes coupoles, hein, ou que ces énormes. Donc, ça, on ne le saura jamais. Hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est au milieu du XIIIe siècle qu'on a opéré ce compartimentage nouveau de la nef, hein, pour dessiner ces travées d'ogive. Et puis, à la fin du XIIIe siècle, dans les années 1280, l'Église est très riche. C'est une époque, la fin du règne de Saint-Louis, c'est une époque très très faste pour du point de vue démographique, du point de vue économique. Donc c'est une époque où on a beaucoup d'argent, et surtout c'est l'époque où idéologiquement chaque ville veut avoir une grande cathédrale moderne, le style du nord de la France est imposé partout, c'est aussi politique, c'est le rayonnement du roi Saint-Louis qui est rattaché donc à cette hégémonie parisienne qui commence à se faire sentir. Encore que là, on soit dans le domaine des rois d'Angleterre, hein, donc c'est plus culturel que politique. Mais on veut avoir une cathédrale moderne, donc on rase le cœur roman et on construit ce cœur gothique dans les années 1280. Alors là, l'étude, il n'y a pas de nouveauté sur ce point. Il y a une question qui est en débat depuis longtemps, c'est savoir quel est l'architecte de cette cathédrale. On pensait à un certain Jean Deschamps, qui a été celui de la cathédrale de Clermont-Ferrand, parce que effectivement, Clermont-Ferrand, Limoges, Narbonne, Bordeaux sont des cathédrales très proches les unes des autres, et l'architecte de Clermont-Ferrand s'appelait Jean Deschamps. C'est de plus en plus vraisemblable, on n'ose pas l'écrire ni l'affirmer, mais ça ressemble beaucoup, et puis on a l'impression qu'il y a peut-être même une dynastie d'architectes, parce qu'au début du XIVe siècle, il y a encore un Bertrand Deschamps, qui est architecte de la cathédrale de Bordeaux, qui a un fils qui s'appelle Jean Deschamps aussi, qui essaie de faire obtenir une prébende de la part des chanoines. Donc, tout ça, ceci dit, c'est compliqué parce que ça se déroule sur plusieurs décennies. Mais on met en place ce chœur dans les années 1280. Et au début du XIVe siècle, on on en est à construire le transept. Et puis là, les fonds s'épuisent. Il y a un moment où on a beaucoup d'argent, c'est au moment où le Clément V, l'évêque de Bordeaux, Bertrand de Gaulle, devient pape. À ce moment-là, beaucoup d'argent arrive sur l'église et on va continuer de changer. Mais ça s'arrête un peu là. Et on va décider de raccorder la nef et le chevet avec un transept qui est très, très, très déformé. Et on construit des deux grands portails au sud et au nord. Et là aussi, il y a deux nouvelles études qui viennent de sortir. Sur le transept sud, elle va être publiée dans la Société archéologique là, cette année. Elle sort cette année. C'est un jeune historien de l'art qui s'appelle Marcus Licht, qui est au CNRS, qui travaille là-dessus, qui a bien étudié la façade sud et qui a montré comment, en fait, c'est une façade qui a été faite en deux fois. Elle est sans doute du tout début du XIVe siècle. Et puis, dans les années 1320, on a plaqué le portail, qui est venu se plaquer sur une façade plus ancienne. Donc là, il y aura une publication très détaillée donc, au mois de mars, là, qui va sortir, avec une étude de toutes ces sculptures qui a été permise par le ravalement du portail, par les travaux de restauration. Mais il y a encore des choses très obscures, des très beaux médaillons qui sont en bas, on n'arrive pas trop à comprendre quelle est l'iconographie réelle. Mais bon, le travail de Marcus Licht est intéressant. Puis surtout, il y a quelques années, il avait publié un travail similaire sur le portail nord, la porte des flèches, dans laquelle il avait été aussi restauré. Et là, il était allé très loin sur les comparaisons. Il avait montré de manière évidente les liens avec Rouen. Alors moi, j'avais déjà un peu lancé ça. J'avais fait un petit article sur Internet aussi sur Rouen, Pamplune via Bordeaux, parce que j'ai l'impression qu'il y a un atelier qui vient de Rouen, qui passe à Bordeaux et qui va travailler ensuite à Pamplune. Alors lui, sur Pamplune, il n'est pas tout à fait persuadé que ce soit avéré. Moi, je le suis pour certaines statues, c'est évident, pour d'autres peut-être moins. Mais bon, il a bien étudié ça et il a montré des liens très très étroits avec la Normandie, en particulier pour la sculpture. Un sculpteur qui intervient à Bordeaux, le tympan de Bordeaux, qui met en relation avec un sculpteur qui a travaillé en Normandie sur un édifice mineur, mais qui est très riche et très important. C'est l'église d'Écouy. Écouy, c'est dans, je ne sais plus dans quel département, c'est l'Eure peut-être. Et c'était l'église de Enguerrand de Marigny, qui était le ministre d'un personnage très proche de Philippe le Bel, et qui avait fait construire une église qui était un peu son mausolée familial avec de très très belles sculptures. Et le sculpteur de Bordeaux a travaillé sans doute à Écouy. Donc c'est un sculpteur normand, parisien. Alors ça c'est une nouveauté. La restauration du portail a été là aussi l'occasion de mettre en évidence la qualité exceptionnelle de la sculpture de Bordeaux. Et là le travail de Marcus Licht a bien montré que les chanoines ont voulu avoir ce qu'on faisait de plus beau à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré des chantiers les plus prestigieux de l'époque, on a fait venir des ateliers, dans les années 1330, par là. Alors ça a été encore une des... C'est pas un bouleversement, si vous voulez, parce que, bon, déjà, Brutal, Carnel avaient un peu... Mais ça confirme, ça établit des rapprochements plus précis, ça peaufine la chronologie, et par conséquent, ça va permettre de mieux dater, mieux interpréter d'autres églises, par exemple Saint-Michel, a des éléments qui sont très très proches de Saint-André, qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'à maintenant, que Marcus Licht a démontré, qui permettent de mieux comprendre l'histoire de Saint-Michel. Donc ça marche comme ça un petit peu en cascade. Et enfin, le dernier élément, alors ça c'est tout nouveau, après on a après cette reconstruction du cœur, là, on tombe au moment de la guerre de Cent Ans, alors on n'a plus fait plus grand chose pendant un siècle, jusqu'au XVe siècle, où on va construire ces contreforts, ces arcs-boutants, les uns après les autres, donc parce que l'église est instable, alors on la consolide en mettant les arcs-boutants. Alors là, on a aussi on a des attributions, on commence à avoir des documents avec des noms de maîtres d'œuvre, tout ça, on y voit un petit peu plus clair. Surtout, on voit un petit peu apparaître un maître d'œuvre qui est important, qui s'appelle Humbert Bouachon, sur lequel on a travaillé très très récemment, là. Cet Humbert Bouachon, c'est sans doute lui qui va aussi travailler à Bazas, aux arbitants de Bazas. Et ce sera un peu le dernier point. Cet Humbert Bouachon, on a toute une série de maîtres d'œuvre qui se succèdent, et on a réussi à attribuer les contreforts aux uns aux autres. Alors Humbert Bouachon, c'est un maître d'œuvre très important qui va travailler quelque temps jusque dans les années 1530 à Bordeaux, puis après il se fâche avec le chapitre, toujours des histoires de gros sous, et puis il s'en va, il part, il va travailler à Avignon, et là on le retrouve à Avignon. Alors ce qui est très intéressant chez ce personnage, c'est que lorsqu'il travaille à Bordeaux, c'est vraiment l'architecture gothique, très très gothique, et à Avignon, les deux monuments qu'on a de lui, ce sont deux tombeaux, deux tombes familiales dans deux églises différentes, qui sont parfaitement renaissance. C'est le moment où on passe d'un style à l'autre. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit comment un maître maçon peut changer de style à la demande de ses... Et alors, ça pose le problème à Bordeaux, et c'est le dernier élément, de ce dernier arc-boutant qu'on appelle le contrefort de Gramont, qui vient d'être récemment nettoyé, qui est magnifique, au nord, qui est tout blanc, là, qui est... Et donc là, on l'a étudié récemment, ça date de 2 mois, j'ai fait ça avec des étudiants, donc, pour un cours que je préparais, et je crois que j'ai réussi à... Alors, ce contrefort est construit au moment où Humbert Bouachon est maître de l'œuvre, mais il est tellement différent de ce qu'il a fait dans le style Renaissance à Avignon, que c'est évidemment pas de lui. En revanche, j'ai pu, je pense, arriver à montrer que... Il travaille avec un ornemaniste bordelais qui s'appelle le nom va me revenir. C'est le sculpteur qui travaille à la chapelle Saint-Joseph de Saint-Michel pour un marchand bordelais qui s'appelle Gabriel Dalguel. Et qui travaille sans doute pour Humbert Bouachon qui va sculpter le contrefort de Gramont. Ça, j'ai fait des comparaisons de style et c'est. Alors, je vais retrouver le nom, je suis désolé, tout d'un coup il m'échappe. Voilà, donc ça c'est les. Voilà, et puis les derniers travaux sur lesquels je me suis un peu penché, c'est la tribune d'orgue de la cathédrale aussi, qui est très intéressante, qui est contemporaine du contrefort de Gramont. Que d'un tout autre style maintenant. Là. Et là, on voit qu'au 15e, au début du 16e siècle, Bordeaux est une vraie fourmilière, là, une très très grosse activité avec cette arrivée de la Renaissance. Et là, ça pose les problèmes de questions de goût. Alors, pourquoi les goûts changent, comment on s'adapte, comment les sculpteurs arrivent à passer d'un style à un autre, parce que pour nous c'est évident, voilà, mais est-ce que les gens ont vraiment l'impression de rupture totale, enfin, c'est des questions que l'on se pose, sur les auxquelles on, enfin moi ça m'intéresse un peu, ces problèmes de style, de goût, bon, pourquoi, c'est pareil pour les vêtements, hein, c'est la même chose. Hein, c'est...
Cette période Renaissance, il n'y a que des témoignages dans les édifices religieux. Y en a-t-il sur des bâtiments civils ?
Alors, des bâtiments civils, il n'en reste pas beaucoup à Bordeaux. Alors, évidemment, on a beaucoup de documentation. Beaucoup de documentation, parce qu'à ce moment-là, on commençait à avoir beaucoup de contrats, de préfets. Ça, c'était la thèse de Paul Roulier, qui a publié donc énormément de choses. Mais de monuments, il reste très très peu de choses à Bordeaux. Il reste une maison... de belle allure dans l'impasse de la rue Neuve qui est assez près de la première Renaissance des années 1530 avec une grande arcature des médaillons. Il reste tout près de là alors un petit peu plus tard cette fois dans la deuxième moitié au troisième quart du 16e la maison de Montaigne mais dans la maison de Montaigne il reste juste un petit pavillon que l'on appelle chapelle, qui n'est pas une chapelle, sans doute, qui est un pavillon. Alors, c'est la... comment elle s'appelle cette rue? Excusez-moi, vous voyez, je ne connais qu'elle. La rue qui part en bas du corridor. Rue de la Rousselle. Rue de la Rousselle. Donc là, rue de la Rousselle, à l'angle de la... Il y a une petite impasse, c'est de l'impasse Forêt, on a rue de la Rousselle. Il y a une maison, elle est tout à fait 19e, à l'extérieur, il y a une plaque en marbre, mais à l'intérieur, c'était un garage encore il y a quelques années. Et là, dans la cour de ce garage, enfin, il y a une espèce d'onduline dessus, là aussi, il faudrait peut-être que la mairie s'en occupe. Enfin, il y a un beau pavillon 16e siècle, et puis toute la maison derrière, qui était la maison de Montaigne. Alors là, il y a une grosse étude qui a été faite par une étudiante, c'est celle qui a fait les images 3D aussi avec moi, qui s'appelle Jessica Fer, qui a fait une étude sur la maison de Montaigne, sur l'histoire de cette maison, mais du point de vue architectural, il reste très très peu de choses à Bordeaux de la Renaissance. On a des documents anciens, il y avait la fameuse maison de l'alchimiste, donc qui se trouvait rue des Bahutiers, mais il y a des éléments démontés au musée Aquitaine, il y avait quelques hôtels aristocratiques, mais non. Il y a une petite tribune qui remontait près de l'école, à l'école des Beaux-Arts, qui est une petite tribune aussi Renaissance, qui vient de l'hôtel d'Espagné. Il y a très peu de choses, hein, très très peu de choses. Après, pour le début du 17, pour le 17e, on commence à en avoir un peu plus. Mais il y a eu beaucoup de reconstructions, et ça c'est la thèse de Roudier, qui est très riche, mais il n'y a que des textes, quoi. On a quelques monuments funéraires, on a des églises, on a... Voilà. Je m'y suis intéressé là il y a 2 mois, parce qu'il y a un collègue qui a décidé qu'il ne faisait pas ses cours, alors j'ai pris sa place. Et comme il était moderniste, j'ai travaillé sur la première Renaissance, qui venait dans la suite de ce que je faisais. Donc, voilà. Bon. Voilà.
Bon, c'est bon.
On vous
voilà, nous sommes attendus au petit caboulot.
Bon, voilà.